En fait, on a fait vraiment maintenant les choses les plus compliquées. On va passer beaucoup plus rapidement sur le reste. On a vu quatre choses qui se passent au niveau des individus. On a parlé d'implication. Alors rappelez-vous, motivation, frein, seuil de passage à l'acte, etc. On a eu la prise de conscience au niveau de l'animateur, au niveau des membres du groupe, au niveau du collectif. On a vu, et on est resté très en détail sur les aspects de convergence, comment faire converger quand on est animateur, avec, en mettant de l'économie du don, avec de l'abondance, avec de la vision à long terme, avec de l'estime. On a vu aussi comment, avec des personnes arriver en face à face, à faire converger avec les méthodes CRP. On a vu aussi comment faire converger collectivement. Et on a parlé des conflits d'intérêts et des méthodes cartographiées, ce que j'appelle la pensée 2. C'est un terme que j'ai piqué à Edouard Bonneau, qui est la deuxième mode de pensée, en fait, si tu veux. Alors, et puis, on a vu les tâches de coordination. On a vu qu'il y avait plein de tâches. La question, c'est est-ce qu'on les centralise ou est-ce qu'on les décentralise par rapport à l'étape où on est mon groupe. Et puis, quelles sont les contraintes et les opportunités et comment je gère les contraintes, c'est une tâche de coordination. Éventuellement une personne ou une structure, et les opportunités, c'est une tâche de réseau, c'est-à-dire de plein de personnes. Allez, maintenant on va se balader un peu sur les niveaux du groupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire la taille d'un groupe ? Alors en fait, on va dire qu'il y a il y a trois niveaux de groupe, pour simplifier. Dans un petit groupe, rappelez-vous, au début, on disait qu'à 12, on savait déjà faire un groupe depuis l'âge des cavernes. Relativement bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne se tape pas dessus. Hein. On arrive, hein, même dans une famille, on se tape dessus. Donc, autant dire. Mais enfin, on arrive à faire des choses. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, qui participe ? Ben, si quelqu'un ne participe pas, c'est un petit groupe. Tout le monde a une tâche différente, souvent. Et à ce moment-là, quelqu'un qui ne fait pas sa tâche, ça pose un problème pour tout le monde. Et à ce moment-là, là, on est dans un système très contraint. On n'est pas dans un groupe coopératif. Ou alors, il faudrait que tout le monde puisse faire les mêmes tâches et puis qu'on arrive à faire des choses. Avec un petit groupe, c'est moyennement adapté au projet coopératif. Ou alors, il faut faire en sorte que ça ne dépende pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre nous échoue ? Voilà la question à se poser. Après, vous allez voir beaucoup de groupes qui vont être entre 12 et 100. C'est un peu, si j'ai bien compris, une partie de vos groupes, tels que je les ai compris. Et donc là, c'est intéressant parce que si jamais je viens dans votre groupe, j'ai le droit d'être inactif. C'est vachement intéressant parce que si je suis inactif aujourd'hui, je vois ce qui se passe, mais demain, je pourrais devenir actif. Donc, je suis quelqu'un de plus intéressant que si j'arrivais de groupe depuis zéro, etc. Je suis un peu dedans déjà quand même. Et donc, on a dit qu'il y avait entre 10 et 40% des personnes qui sont proactives ou réactives. C'est réactif. Et une personne proactive. Souvent, il y a dans ces groupes, vous avez vous qui lancez tous les trucs. Et cherchez pas d'avoir 10 personnes qui voudraient participer, qui voudraient être actifs, c'est pas vrai. Il y en a 1%. Et alors, à ce moment-là, eh bien, ça va être vous. Par contre, vous allez avoir quelques personnes qui vont être actives, vous allez avoir une dizaine de personnes. Seulement, le fait, par rapport à votre groupe de 100, par rapport au groupe de 10, en gros, eh bien, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses quand même, parce que les 10 qui vont être réactifs, c'est pas forcément toujours les mêmes. Donc la diversité va être beaucoup plus grande. Et si vous arrivez à faire un groupe à plus que 100, à 1000, etc., alors là, c'est super parce que vous avez commencé à avoir des personnes proactives, un peu plus, des personnes réactives. Alors, pour que les personnes proactives elles puissent faire leur truc, on va souvent faire un sous-groupe même. Et c'est là où on commence à faire apparaître des sous-groupes et des choses comme ça. Alors maintenant, imaginez que je dis, voilà, moi j'ai 1000 personnes, non, j'ai 100 personnes, allez, j'ai 100 personnes. Et alors, il y en a marre parce qu'il y en a 10 qui bossent et il y en a 90 qui font rien. Alors, j'ai décidé de virer les 90 personnes qui font rien. Et donc, j'avais 10% des personnes qui travaillaient, je les garde, les 10. Et on est 10 maintenant, on n'est plus que 10. Et manque de chance, il y a 10% toujours de personnes qui travaillent dans mon nouveau groupe, et donc je suis tout seul à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes qui travaillent dans le groupe, ce n'est pas un nombre, c'est un pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, naturellement, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans un groupe qui est actif, je vais avoir tendance, naturellement, sans faire exprès, hein, c'est un truc un peu inconscient, il y a certaines personnes qui vont commencer à devenir plus actifs. S'il y a beaucoup de gens qui sont actifs, peut-être trop par rapport à la possibilité le groupe d'accueillir au niveau de l'estime et tout ça, eh bien, il va baisser. Et si votre groupe, il est à peu près à 10% d'équilibre de gens actifs, si vous virez tous les inactifs, eh bien, vous allez juste faire en sorte que vos actifs deviennent inactifs. Donc, ce qui est important, c'est que si vous avez plein de gens inactifs, tant mieux. Tant mieux, rajoutez-en plein. Et certains de vos inactifs vont devenir actifs. C'est pas en resupprimant les inactifs, c'est en rajoutant des inactifs que vous allez avoir plus de gens actifs. Et ça a un gros, gros intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui est inactif, c'est pas souvent quelqu'un qui est complètement inactif. Rappelez-vous, dans le questionnaire, il y a la différence entre observateur et inactif. On a fait une expérience fantastique, c'est qu'à un moment donné, on a commencé avec le groupe. Là, il y avait donc à peu près, normalement, des personnes qui réagissaient sur une question ou une autre. Il y en avait sur 130, il y en avait 12, 15 maximum. Et puis, on a commencé à parler des gens inactifs, qui foutaient rien, qui étaient des passagers clandestins, tel qu'on les appelle. Et alors là, révolte des inactifs qui commencent à tous devenir actifs en disant « Mais attendez, c'est pas vrai. Nous, on suit ce qui se passe, ça nous intéresse. On n'est pas actifs pour le groupe, mais on est vachement actifs parce qu'on suit ce qui se passe. » Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient réellement inactifs. Ils ne disent pas ce qui se passe dans le groupe, ils s'en foutent. Ils font partie du groupe, c'est tout. Il y a des gens qui sont observateurs. Je suis dans le groupe, je suis ce qui se passe. Par contre, je suis pas très visible parce que je ne fais pas des choses pour le groupe. Et après, il y a des gens qui sont réactifs. C'est-à-dire, ils font rien, sauf si on leur demande de faire. Et alors là, par contre, là, ils réagissent. Et il y a des gens qui sont proactifs, qui vont prendre des initiatives. Donc finalement, des observateurs, c'est des gens extrêmement intéressants parce que c'est ceux-là qui, un jour, pourraient devenir actifs dans votre réseau. Donc, les inactifs, les observateurs sont vos amis. C'était la conclusion, pratiquement, du point sur la taille du groupe, ce qui permet à Laurent de courir pour aller appuyer sur le bouton avant que, mais n'appuie pas tout de suite parce que nous avons des choses sur la taille. Alors, les petits groupes qui rassemblent les plus actifs, justement, on en a parlé. C'est-à-dire que si on a un petit groupe, on est obligé d'être tous actifs. Donc, faire un petit groupe à 100% d'actifs, c'est vachement difficile, même dans une entreprise. Parce que c'est pas parce que les gens sont payés pour qu'il n'y aura personne qui va tirer au flanc. C'est évident. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Par contre, un groupe énorme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un potentiel. Alors, chez quelqu'un avait parlé de potentiel de propagation des idées, et c'est intéressant parce que c'est pas pour ça que ça se propage bien. Donc vous voyez que le mécanisme d'abondance, d'idées, d'informations, etc., il est important pour que ces idées, l'estime, mais aussi les idées, se propagent dans le groupe. Parce que c'est pas parce que on reçoit plein de mails qu'on les lit tous, évidemment, même dans un groupe dans lequel on est actif. Donc, comment on va faire en sorte de propager, ça, c'est des très bonnes questions. Et puis, on a vu aussi les différents niveaux de réseau, c'est-à-dire que si maintenant on a un groupe à 1000 personnes, c'est vrai que c'est pas toujours très facile. Imaginez que moi, je veuille être très actif dans un groupe. J'en attends une contrepartie, c'est d'avoir de l'estime du groupe. Mais on est 100 personnes très actives. On ne me voit pas dedans. Alors, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, j'allais dire de façon égoïste et convergente avec l'intérêt du groupe, de créer un petit sous-groupe dedans dans lequel moi je vais être visible, donc un sous-groupe qui va travailler sur telle chose, qui va apporter au reste du groupe, mais qui va me rendre visible aussi plus facilement. C'est pour ça qu'en général, lorsqu'on a un groupe à plus de 100 personnes, eh bien on commence à voir apparaître assez naturellement des petits sous-groupes et ça devient très intéressant. Effectivement, c'est comme ça qu'on a plus de place pour des gens plus actifs. Tant mieux. Donc si vous voulez multiplier les gens proactifs en particulier, eh bien rajouter des sous-groupes. Donc voilà un peu les éléments. On parle de micro-groupe aussi, bien sûr. Et puis, alors, ça, c'était un truc intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait trois types de groupes différents, mais comment les faire évoluer? Et bien, quand on passe d'un groupe de 10 à un groupe de 100, c'est pas la même chose. C'est hier, je ne sais plus qui c'est qui disait, ben tiens, en fait, on est en train de faire le groupe qui va créer le groupe. Je crois que c'était toi, c'est-à-dire qu'il y avait 3-4 personnes. Non, c'était toi, non, c'était, je ne sais plus.
Oui, c'est ça. Oui.
En fait, il y a un petit groupe. Et en fait, ce petit groupe n'est pas un groupe qui a une finalité en soi, c'est un groupe qui a une vocation à devenir, à créer et à coordonner un groupe plus large. Et donc, en fait, à un moment donné, la taille du groupe va évoluer. Comment on va faire? Ça, c'est intéressant parce que vous êtes un petit groupe de taille moins de 12 et vous avez une vocation à faire un groupe de taille d'une centaine de personnes, je dis n'importe quoi, en gros. Eh bien, ça veut dire que les façons de faire ne vont pas être les mêmes. Comment on va faire passer la culture? Comment on va passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'on ne va pas avoir une crise de croissance, finalement? Et ça va être justement le truc intéressant par rapport au point d'après qui me permet de faire une superbe transition dès que Laurent a appuyé sur le bouton.